Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Jérusalem, au temps de Jésus, c'est la série d'émissions que nous vous proposons de suivre pendant les trois dernières semaines de Carême. Nous avons gravi, lors de l'émission précédente, le mont Sion. Il domine Jérusalem à plus de 780 mètres d'altitude. Ensuite, nous sommes entrés au Cénacle, cette grande salle dans laquelle Jésus a célébré son dernier repas, instituant l'Eucharistie. Et c'est là aussi qu'ont eu lieu notamment les apparitions du Christ ressuscité et la Pentecôte. Et dans l'émission d'aujourd'hui, je vous propose de nous rendre au palais de Pilate, puis au Golgotha. Et nous irons ensuite au Saint-Sépulcre, lieu du tombeau du Christ. Frère Dominique-Marie Cabaret, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes dominicain de la province de Toulouse, vous avez vécu 10 ans à Jérusalem et vous avez été chargé du cours de topographie et d'histoire du Proche-Orient ancien à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Alors avant de suivre Jésus sur le chemin qu'il mène au Golgotha, ce fameux chemin de croix, nous allons d'abord revenir sur les lieux de son procès. L'évangéliste Jean précise que du jardin des Oliviers où Jésus a été arrêté, il a été mené chez Anne avec un H, le beau-père de Caïphe, qui était, je cite Saint Jean, qui était grand prêtre cette année-là. Où se trouve exactement cet endroit, frère Dominique Marie ?
Alors, on est obligé de faire suivre un peu la tradition et puis aussi de suivre l'agencement de la ville de l'époque, au sens où les grands prêtres avaient a priori l'habitude d'habiter dans les beaux quartiers. Et donc, les beaux quartiers, c'est plutôt la ville haute, ou en tout cas la ville qui est entre le palais d'Hérode, palais de Pilate dont on va parler, enfin à supposer que ce soit le palais de Pilate, mais entre le palais d'Hérode et le temple, et donc avec des belles demeures qui étaient là. Donc évidemment on ne sait pas forcément exactement l'endroit, mais il y a un endroit qui est vénéré aujourd'hui, en tout cas pour les catholiques, parce qu'il y a des différentes traditions aussi pour les Arméniens et autres. Mais pour les catholiques, en tout cas, c'est Saint-Pierre in Gallicante. Donc, comme son nom l'indique, Saint-Pierre in Gallicante, Gallus Cant, donc où le coq a chanté. Donc, l'endroit où, dans la cour de ce palais, où donc Pierre va renier Jésus. Voilà, et donc, il y a un endroit qui est, alors pas tout à fait sur le sommet du mont Sion, mais sur encore la pente, pas très haut, pas très loin du sommet. Et il y a un endroit où on vénère d'ailleurs aujourd'hui une citerne, où on vénère aussi un endroit qui aurait été un poste de garde, une citerne dans laquelle on aurait enfermé des gens, et qui est vénéré par les chrétiens depuis très longtemps, puisqu'il y avait une église byzantine, et que donc sur le sommet de la citerne, il y a des croix, donc qui montrent que, a priori, cet endroit a été vénéré par les chrétiens, au moins depuis l'époque byzantine. Et avec quelques témoignages, puisque donc le pèlerin de Bordeaux semble parler de cet endroit-là, où il y avait même une colonne. Et est-ce que c'est le véritable lieu ou est-ce que ce n'est pas le véritable lieu du palais d'Anna ? Peut-être, mais il y a quand même une tradition qui va dans ce sens-là. Et ensuite, c'est sûr que pour la prison, une citerne où il n'y avait plus d'eau pouvait servir évidemment de prison, parce qu'on ne pouvait pas en sortir. C'était des fois plus facile que d'avoir une pièce dans laquelle on mettait une porte qui était fermée avec des clés. Voilà, donc c'est un lieu qu'on vénère aujourd'hui, qui est d'ailleurs un beau lieu, on a une belle vue,
oui, voilà,
qui est tenu par les assomptionnistes français. Donc, voilà.
Et on peut imaginer que c'était un palais, voilà, c'est ça, une belle demeure.
Non, une belle demeure.
Une belle demeure. Ouais.
On a quelques traces dans la vieille ville de belles demeures de l'époque hérodienne, donc de l'époque de Jésus. Une belle demeure, une demeure avec tout le luxe qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Donc évidemment à la juive, dans le sens où ça n'empêchait pas les peintures sur le mur à la manière un peu de Pompéi, hein, mais a priori avec une rigueur, puisque pas de décoration autre que géométrique sur les murs et même sur les mosaïques, donc avec assez peu de couleurs. Et puis aussi, donc évidemment, pas mal de mikvé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mikvé ? C'est un bain où on pouvait se purifier, donc comme aujourd'hui d'ailleurs encore pour les juifs orthodoxes. Et aussi donc des traces de vaisselle de pierre, etc. Donc en fait, ce secteur était habité par une population juive, c'est certain, et avec des belles maisons. Donc voilà. Donc il y a alors comme vestige donc un escalier qui naturelle de cette époque-là. Alors évidemment, ça permet de dire que éventuellement Jésus a emprunté cet escalier, mais on n'en est pas certain. Mais quoi qu'il en soit, c'est un escalier qui montrait d'ailleurs que, parce que comme je viens de vous le dire, on montait sur le mont Sion et donc il y avait évidemment tout un système de chemin pour y accéder, et notamment des escaliers.
Donc dans cette belle demeure de Anne, ce grand prêtre, hein, il y a donc un dialogue entre Jésus et Anne, et puis finalement ce grand prêtre envoie Jésus, toujours ligoté, dit saint Jean, au grand prêtre Caïphe. Et c'est ce qu'écrit donc saint Jean au chapitre 18. Et c'est là qu'a lieu la confrontation avec Pilate. Le dialogue se fait à l'intérieur dans le prétoire. Et puis cet échange est entrecoupé par une série de questions posées aux Juifs à l'extérieur du prétoire.
Voilà, alors votre langue a fourché, je pense, parce que vous avez dit le palais de Caïphe. C'est pas grave, c'est le palais de Pilate.
C'est le palais de Pilate.
Oui, mais oui. Donc on a bien compris. Donc en effet, saint Jean parle d'un prétoire. Donc là, c'est toute une question prétoire. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire, prétoire ?
Ah ben, prétoire, c'était le palais de justice de l'époque. Donc, il faut bien comprendre. Et alors, justement, ça implique pas mal de choses, parce que même au fur et à mesure, dans l'époque byzantine, le prétorium est devenu le synonyme du palais du gouverneur. Donc, ça veut dire que la dimension judiciaire ou le pouvoir judiciaire qu'avait le gouverneur avec le pouvoir exécutif, il n'y avait pas la séparation de pouvoir telle qu'on peut le connaître aujourd'hui. Eh bien, en fait, la sanctuarisation du palais de justice a pris le dessus sur le nom du palais du gouverneur. Donc, ça veut dire que ça vous montre bien que pour un gouverneur romain à cette époque-là, dans son palais, il y avait nécessairement l'endroit où il rendait justice. Alors, quand on dit qu'il rendait justice, ça veut dire qu'il y avait une salle intérieure, mais il y avait aussi le fait que la justice, l'édit de justice était rendu à l'extérieur sur une estrade, a priori.
Pour que ce soit public.
Pour que ça soit public, avec le magistrat romain qui s'asseyait sur une chaise curule, signe de son pouvoir. Et une estrade qui lui permettait aussi, avec des soldats, d'être à l'abri de la foule. Et donc, en fait, on voit très bien dans l'évangile de Jean ce mouvement où on est à l'extérieur, où on est à l'intérieur, et on est à l'extérieur. Et pourquoi on reste à l'extérieur ? Parce que les Juifs ne veulent pas se souiller d'entrer dans un bâtiment qui serait impur, qui était impur pour eux, à la veille, justement, de la grande fête de la Pâque.
Mais de toute façon, ils ne seraient pas entrés, parce que vous dites que c'est à l'extérieur que...
Non, ils auraient pu entrer, parce que le jugement aurait pu se passer dedans, s'ils avaient accepté. Mais là, il y a eu en effet quelque chose qui n'était pas tout à fait conforme à la règle, au sens où Pilate a consenti à sortir parce qu'il ne voulait pas rentrer. Mais normalement, on aurait pu faire le jugement uniquement à l'intérieur. Et tout ça, donc, aussi milite dans le sens où ce jugement de Jésus a eu lieu au palais de Pilate, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais au palais Pilate, en fait, qui est le palais d'Hérode. Parce que, donc, ou le deuxième palais d'Hérode, parce que donc, dans la première partie de son règne, Hérode habitait, à mon avis, dans le palais que les Asmonéens, donc ses prédécesseurs, avaient occupé, qui était à côté de la forteresse Antonia. Et donc, dans la deuxième partie de son règne, il a décidé de construire un très beau palais dans la ville haute, magnifique, et qui était le plus beau palais de Jérusalem, donc en tout cas à l'époque de Jésus. Hein, et donc on le sait par le témoignage de Flavius Joseph, et on sait que les successeurs de Ponce Pilate, quand ils venaient à Jérusalem, ils rendaient justice dans le palais d'Hérode, l'ancien palais d'Hérode, et on en a des traces, enfin en tout cas sur les témoignages de Flavius Joseph. Donc dans ce sens-là, on peut penser que Ponce Pilate aussi tenait justice dans l'ancien palais d'Hérode. Donc, ça veut dire que dans la ville haute. Alors, pour ceux qui connaissent Jérusalem, ils seront sans doute étonnés parce qu'aujourd'hui, quand on va à Jérusalem et qu'on fait le chemin de croix, on ne part pas de la ville haute, on ne part pas de ce qu'on appelle la tour de David, mais on part du bas, donc autrement dit de l'Antonia, où il y a la Via Dolorosa, et c'est aujourd'hui un couvent franciscain, le couvent de la Flagellation, et donc on prétend que le chemin de croix ait commencé là. Alors ça, il y a des études très intéressantes, notamment un article de Marie-Armelle Beaulieu dans Terre Sainte Magazine que je recommande sur la question. Je n'ai pas besoin d'en dire plus parce que ça serait trop long, mais en fait, c'est une tradition médiévale. et qui vient du fait que, donc, ben, vous savez que les chrétiens occidentaux ont été chassés de Jérusalem à la fin des croisades par donc, Saladin, et qui n'ont pu revenir qu'un siècle ou un peu près plus tard. Et que, donc, en fait, des traditions nouvelles sont nées au moment du Moyen-Âge, et qu'il était assez logique, quand on venait de Gethsémani, donc de l'est de Jérusalem, quand on entrait dans la ville pour aller au Saint-Sépulcre, finalement, de marquer son chemin de station.
D'est en ouest, alors.
Voilà, d'est en ouest. Alors que là, si on réfléchit à partir du palais d'Hérode, ben, c'est plutôt du sud en nord. Alors, je rassure les gens qui seraient soucieux, ça n'en fait pas un chemin de croix moins douloureux pour Jésus.
Ah hein. Oui, oui, certainement.
Voilà.
Oui, oui. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ce prétoire, puisque donc lieu où a eu lieu le procès de Jésus. Les Juifs demandent la libération de Barabbas. Jésus est alors flagellé, puis les soldats lui tressent une couronne d'épines et le revêtent d'un manteau pourpre. Est-ce que toutes ces scènes ont lieu au prétoire, dans ce prétoire? Et puis, est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur dans ce cas-là?
Il y a un moment où c'est à l'intérieur, parce que Jésus est interrogé à l'intérieur,
oui.
Mais il y a un moment où il sort. Et il y a le moment, donc, justement, solennel, où, vêtu de vêtements pourpres et de sa couronne d'épines, Jésus est sorti, sans doute, sur l'estrade, et avec Pilate qui le montre en disant, donc on l'a évidemment
voici
retranscrit en latin, Ecce homo, voici l'homme. Voici l'homme. Et donc, voilà. Et donc, en fait, ça s'est passé à la fois dedans et à la fois dehors. Quand Pilate demande à Jésus, mais tu es roi, bah, ça s'est passé dedans.
Mais après, il ressort
mais
avec
après,
Jésus.
Mais après, il ressort. Et ça, justement, l'évangile de Jean le montre bien. Il y a un mouvement d'entrée et de sortie. Donc Jésus, lui, est entré dans le prétoire. Et puis, de toute façon, je pense qu'il n'avait pas à discuter sur le fait que puis peut-être qu'il préférait d'ailleurs être dans le prétoire que dehors.
Et la flagellation, elle avait lieu à l'extérieur.
Alors, on peut penser que la flagellation avait lieu dans la cour intérieure du palais. Enfin, pas, non, ça, je ne pense pas que... Enfin, le palais était très grand avec des cours et magnifique. Donc... là, je pense qu'il y avait de quoi. Et puis, de toute façon, dans un palais, il y a toujours l'endroit où la salle des gardes, où on met ceux qui sont chargés de surveiller le palais. Donc, il y a les palais, il y a les appartements princiers, mais il y a aussi l'endroit où on a des cours, où les soldats peuvent se détendre, etc., etc. Donc là, c'était dans le palais où donc enfin. On n'a pas de l'assurance absolue, mais on peut pas. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire que la flagellation a eu lieu dans le palais.
Pas forcément avec tous les Juifs qui étaient à l'extérieur, alors.
Pas forcément.
Non.
Peut-être. Hein, moi, c'est des choses que le. Enfin, bon, il faudrait reprendre exactement l'évangile de Jean si elle est suffisamment précise pour pouvoir dire ça, mais je crois pas que l'évangile de Jean se prononce là-dessus.
L'évangile de Jean dit juste Pilate emmena Jésus au dehors, il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage en hébreu Gabata.
Voilà. Alors justement, ça, c'est la cour qui était devant le palais.
Ah, c'est ça, d'accord.
Et Gabata, donc aussi, dans la racine, le sens, c'est la ville haute, le lieu haut, le marché haut.
D'accord.
Et justement, c'est là qu'on retrouve donc un lien avec cette dénomination qui est issue de l'évangile. Et ce que dit Flavius Joseph, ou en tout cas ce qu'on peut voir de la topographie de Jérusalem, c'est que le palais d'Hérode était dans la ville haute. Et en tout cas, beaucoup plus haut que le palais de l'Antonia, ou la forteresse Antonia, qui, elle, était en contrebas.
Mmh.
Et donc, il y a un dallage aussi, donc, qu'on appelle le lithostrotos, justement à côté de la basilique de Ecce Homo, qui est à côté de l'ancienne basilique, enfin, l'ancienne forteresse Antonia, donc en bas. Alors, et c'est vrai que les archéologues, en voyant ce dallage au début du XXe siècle, notamment un frère dominicain, eh bien, ont eu tendance à dire bah, c'est le lieu où Jésus a été jugé. Sauf que ce dallage, ce qu'on appelle le lithostrotos, aujourd'hui, l'archéologie a montré qu'il était du IIe siècle, donc de l'époque d'Adrien, a priori, parce qu'on a trouvé des pièces de monnaie qui, en tout cas, sont postérieures, en dessous du dallage, qui, en tout cas, sont postérieures. À l'époque de Jésus. Donc, ce n'est pas cet emplacement-là, le lithostrotos, qui est plutôt dans la ville basse, pour le coup, et qui correspond pas à ce terme, gabbata, donc marché haut, qui correspond, alors là, pour le coup, très bien à une place qui aurait été devant le palais d'Hérode, et on peut penser qu'elle existait, cette place, puisque Enfin, évidemment, la solennité du bâtiment faisait qu'il convenait qu'il y ait une place un peu libre devant l'entrée principale, sans doute, du fort, enfin, du palais.
Alors, vous nous avez dit, frère Dominique-Marie, que le chemin de croix n'allait pas, enfin, devrait aller d'est en ouest, et puis certains disent qu'il va plutôt du sud vers le nord.
Non, c'est l'inverse.
Du nord vers le sud.
Actuellement, oui. Il va de l'est de Gethsemane à l'ouest. Oui. Et en toute rigueur, on peut penser qu'il se passait du palais d'Hérode, qui est plutôt au sud, vers le nord, où se trouve le Golgotha.
Et donc, vous disiez que, évidemment, ça n'empêchait pas que le chemin de croix soit aussi pénible.
Oui, ça n'empêche pas que le chemin de croix soit aussi pénible. Et puis, moi, je ne suis pas du tout pour, changer d'emplacement du chemin de croix dans la vieille ville. Il est très bien d'avoir un chemin de croix. Et aujourd'hui, si on devait changer le trajet du chemin de croix, ça poserait sans doute plus de problèmes que ça résoudrait de problèmes. Donc, et puis, c'est très bien de vivre un chemin de croix quand on fait un pèlerinage. Donc, je n'ai absolument rien contre le pèlerinage, notamment qu'organisent les franciscains le vendredi après-midi, pendant le carême, et même des fois davantage, et en tout cas le vendredi saint. Dans la vieille ville.
Et pour Jésus, il est vraiment passé dans la vieille ville. Il était vraiment dans des rues assez étroites.
Oui. Alors, il est vraiment passé dans la vieille ville, a priori. Enfin, dans la vieille ville. Dans la ville de l'époque, hein, qui n'avait pas les mêmes murailles qu'aujourd'hui. Donc oui. C'est-à-dire que, on pourra le voir tout à l'heure, mais le Golgotha était à l'extérieur de la ville de l'époque, a priori. Comme le dit d'ailleurs les évangiles, et donc en fait, oui, il y a eu tout un chemin, parce que s'il part de cette place Gabbata, eh bien, il faut accéder à la grande porte, et donc, a priori, on prenait les routes à l'intérieur. Parce que
et de combien de mètres est-ce que c'était très long? Parce qu'on a l'impression, parce qu'avec le poids de...
Alors, j'ai plus, la distance exacte en mémoire, mais... c'est l'ordre du petit de 800 mètres, quelque chose comme ça, un peu moins.
Bon, enfin,
le chemin de croix actuel, peut-être un peu moins, voilà.
D'accord.
500 mètres.
Mètres,
comme il y a des zigzags, ça dépend aussi comment on compte. Mais donc, oui, mais comment dire, oui, mais c'est 500 mètres avec un...
Un patibulum à porter.
Très lourd.
Et puis une flagellation.
Et puis une flagellation coups, avant qui est donc, comment dire, aucun problème pour rendre ce qui s'est passé odieux. Effroyable.
Alors vous avez évoqué ce lieu du Golgotha et je vous propose de nous retrouver après une courte pause musicale, frère Dominique-Marie Cabaret. Nous écoutons En ce jour est crucifié le Créateur du monde, composé par le frère André Gouze.
En ce jour est crucifié le Créateur du monde. Il est couronné d'épines, lui le roi des cieux. Il est suspendu au bois.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Les lieux saints au temps de Jésus, c'est le troisième volet de notre série avec le frère Dominique-Marie Cabaret, dominicain et archéologue. Nous sommes entrés au prétoire pour suivre le simulacre de procès de Jésus, puis nous l'avons suivi à travers les rues de Jérusalem jusqu'au Golgotha. Est-ce que vous pouvez maintenant nous décrire ce lieu emblématique ?
Alors, à l'époque de Jésus, le Golgotha était en dehors de la ville et il faut comprendre que c'était pas loin d'une des portes principales de la ville, une des portes qui donnait à l'ouest. Et que, en fait, c'était le fond d'une carrière qui avait été abandonnée depuis longtemps. Alors, une carrière à ciel ouvert, dans laquelle la nature avait repris ses droits, donc c'était devenu un jardin. Et ça, il faut bien comprendre le phénomène de la carrière à ciel ouvert. Donc, c'était en fait une carrière pour des pierres, pour la construction des maisons. Hein. Et donc, en fait, dans cette carrière, bien avant Jésus, il y avait une extraction de pierre, et donc au fur et à mesure de l'extraction de pierre, évidemment, on descend, et sur le bord de la carrière, il y a des marches qui se forment de plus en plus importantes au fur et à mesure qu'on descend. Et voilà, donc, et il se trouve aussi que quand on fait l'exploitation de la carrière et qu'il y a une veine de pierre, donc un endroit où la pierre est mauvaise, eh bien, la loi du moindre effort fait que on évite le secteur et qu'on va creuser autour, et quand on creuse tout autour, eh bien, on peut finalement, il peut se former un petit mamelon qui va être au milieu de la carrière et qu'on ne va pas exploiter. Et donc, quand la carrière est la nature reprend ses droits après la fin d'extraction, eh bien, vous pouvez avoir une colline au milieu d'un jardin. Et donc, en fait, c'est ça. Hein,
Le Golgotha,
c'est a priori une veine de mauvaise pierre, on le voit encore aujourd'hui dans le Saint-Sépulcre, qui est restée au milieu de ce secteur exploité. Et ce qui vous permet de comprendre, comme on était à côté d'une grande porte, il y avait une rue qui passait au nord de la carrière, donc la rue passait en balcon sur la carrière, au milieu de laquelle il y avait ce monticule. Donc en fait, c'était un endroit assez intelligent pour crucifier les personnes, parce qu'à la fois on pouvait faire un service d'ordre assez facile par rapport à la rue, et à la fois toute personne qui passait sur la rue avait un balcon qui donnait sur l'emplacement des exécutions. Donc ça ne veut pas dire qu'on a la preuve que c'était là qu'il y avait des exécutions, mais enfin ceci dit, c'est vraisemblable, ça n'a rien d'absurde. Et je rajouterais juste une chose, c'est que dans les marches de la carrière, eh bien, puisqu'on était proche d'une porte de la ville, il était assez naturel, finalement, aussi de creuser des tombeaux.
Oui, bien sûr.
Et donc, en fait, aujourd'hui, le grand étonnement des visiteurs du Saint-Sépulcre est parfois de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce qu'en fait, le Golgotha n'est pas loin du tombeau de Jésus. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a fallu mettre ça dans une même église qu'on a rapproché, donc tout ça s'est inventé ?
Non, c'était parce qu'il y avait ces grottes.
Non, c'est pas absurde. C'est-à-dire que vu la configuration du coin, vu la configuration de la carrière, eh bien, il y avait une vraisemblance de creuser des tombeaux. Et d'ailleurs, on en a retrouvé plusieurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, le tombeau de Jésus n'existe plus. Il a été détruit en 1009 par le sultan, sur ordre du sultan Hakim. Mais il y a quand même derrière un autre tombeau dont il subsiste une partie, et derrière un autre endroit, un autre tombeau qui sont a priori des tombeaux du 1er siècle, de l'époque de Jésus. Donc en fait, c'était vraiment une zone, une nécropole. C'est normal. On n'était pas loin de la porte de la ville.
Et voilà. Alors j'ai lu que Sainte Hélène, la mère de Constantin le Grand, aurait localisé la première, le lieu de la crucifixion et découvert la véritable croix.
Alors, oui, ça, on est donc dans ce qu'ont raconté les pères de l'Église, notamment Eusèbe de Césarée, qui donc est le grand évêque contemporain de l'époque où Constantin a autorisé le culte chrétien et a financé la construction d'une grande église sur les lieux de la résurrection et sur les lieux de la crucifixion. Et en effet, Sainte Hélène, sa mère, qui était très pieuse, est venue à Jérusalem. Alors, il est évident que les travaux ont été faits à l'emplacement où les chrétiens de l'époque ont dit que ça s'était passé. Hein, donc, on est obligé de tenir compte de ça, sachant qu'en plus, a priori, donc, même si le sujet est disputé pour certains archéologues, enfin, moi, je prétends et je suis prêt à en discuter, mais on ne va pas pouvoir en parler maintenant, que c'était l'emplacement du temple capitolin de la colonie romaine, donc le temple de Jupiter, et qu'Adrien avait fait ériger à cet endroit-là, donc, comme Saint Jérôme le dit, bien qu'on dise que Saint Jérôme se contredise, mais en fait, il ne se contredit pas. Bon, c'est pas le moment d'en parler. Le temple capitolin, donc le temple principal de la colonie romaine, était à cet emplacement-là. Et donc, Eusèbe de Césarée dit bien que le temple a été détruit. Alors, je ne sais pas si vous voyez, pour Constantin, c'est quand même quelque chose de très significatif, parce que Constantin est resté le grand prêtre de la religion romaine toute sa vie, hein, et puis il s'est fait baptiser sur son lit de mort. Donc, ça signifie qu'en fait, on ne pouvait pas bazarder la religion romaine comme ça par un revers de main. Et donc que Constantin ait donné l'autorisation de détruire un temple pour aller voir en dessous, parce que c'était le lieu où les chrétiens, a priori, disaient que c'était le lieu de la mort et la résurrection de Jésus, ça montre, enfin, pour moi, qu'il y avait une tradition forte à Jérusalem pour dire c'est là et c'est pas ailleurs. Parce que sinon, on n'explique pas. La destruction d'un temple, c'est pas anodin, hein. Pour donc surtout un temple a priori capitolin, donc c'est quand même une triade importante de lieux donc romains, et donc en fait voilà, et donc Eusèbe de Césarée raconte donc que la destruction alors a été faite. Alors il y a sans doute dans son récit sans doute un peu d'exagération, etc., mais donc au fur et à mesure on a retrouvé un tombeau, et au fur et à mesure, on a retrouvé aussi donc le Golgotha, et on a retrouvé aussi donc ce qui après a été dénommé comme étant la vraie croix. Hein, donc la tradition est de dire que cette vraie croix, c'est un lieu qui est vénéré aujourd'hui dans le Saint-Sépulcre, au plus profond du Saint-Sépulcre, a été retrouvée dans une ancienne citerne désaffectée qui avait été transformée en débarras, ou en, voilà, comme souvent d'ailleurs les citernes désaffectées. Pas très loin du Golgotha, à une trentaine de mètres. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est un fait que quand on crucifiait les gens, au bout d'un certain temps, les patibulums ou les croix, donc les morceaux de bois qui étaient utilisés, pouvaient s'user.
Les verticaux qui étaient plantés au sol.
Pouvaient s'user, on plantait des clous. Donc, voilà, il y a des moments où ils pouvaient se fendre, sans doute, etc. Mm-hmm. Donc, on devait se débarrasser, surtout que, comme ça avait touché des cadavres, c'était aussi impur pour les Juifs. Mais enfin, bon, c'était les Romains qui faisaient. Et donc, en fait, il n'y a rien d'invraisemblable qu'une croix ait pu être mise, enfin, ou en tout cas, des croix aient pu être entassées dans cette ancienne citerne. Quoi qu'il en soit, celle de Césarée raconte, et d'autres, que il y a eu un miracle qui a été fait, c'est-à-dire que quand des croix ont été retrouvées, l'une d'elles, ou l'un des morceaux de bois retrouvés, a permis de rendre la santé à quelqu'un qui était mourant.
Ah.
Et que c'est comme ça que donc, la vraie croix a été authentifiée parmi les autres.
Elle a été distinguée comme ça.
Voilà.
Ouais.
Donc, c'est ce que là, on est prisonnier des textes. Hein, voilà. Et donc, en tout cas, c'est a priori cette vraie croix qui a été vénérée, qui a été prise par les Perses en 614, qu'Héraclius a ramenée, qui après a été amenée aussi à Constantinople. Mais on sait que, donc, à Rome, donc, a priori, l'impératrice, la mère de Constantin, Sainte-Hélène. Avait même dès l'époque, sans doute dès l'époque durant sa vie, donc dans l'église Santa Croce qui est d'aujourd'hui, ramené des reliques de la vraie croix
la croix du Christ. Si on poursuit le récit de la Passion par Saint Jean, il écrit comme c'était le jour de la préparation, entre parenthèses, c'est-à-dire le vendredi. Il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Le corps de Jésus est alors déposé dans un tombeau mis à disposition par Joseph d'Arimathie. Que pouvez-vous nous dire sur ce tombeau ?
Eh bien, donc, comme je disais tout à l'heure, donc, a priori, il n'était pas loin. Enfin, il n'y a rien d'invraisemblable que Joseph d'Arimathie, qui était quand même un homme important du Sanhédrin, qui avait donc pas mal d'argent, a priori.
Et il n'avait pas pris part aux discussions, justement, sur la mort de Jésus.
Non, mais justement, il était disciple en secret.
Ouais.
Parce que sinon, il n'aurait jamais fait ça. Et donc, qu'il ait creusé pour sa propre famille un tombeau. Et que donc, devant la situation où finalement il regrettait la mort de ce juste, eh bien, il a proposé de mettre le corps de Jésus dans son tombeau. Hein. Un crucifié, normalement, il allait à la fosse commune.
Donc là, c'était un tombeau neuf.
Oui, alors c'était un tombeau neuf. Alors c'est justement, c'est une précision importante. C'est-à-dire que dans la mentalité, enfin, avec les règles juives de pureté, on ne pouvait pas mettre un crucifié dans un tombeau de famille. Qui était déjà habité, si j'ose dire, par des dépouilles précédentes.
Sinon,
parce que sinon, il rendait impur le tombeau. Et donc, il fallait attendre que les ossements soient décharnés pour pouvoir éventuellement le mettre dans un ossuaire, dans le tombeau en question. Et donc, le fait que le tombeau soit neuf, en fait, montre que Joseph d'Arimathie avait sans doute voulu le creuser pour lui, et que donc, il a pu le donner à Jésus sans que... ça pose aucun problème, même aux yeux de tout le monde, parce que il y avait pas de problème de tombeau de famille finalement, hein, qui aurait pu poser éventuellement susciter une autre question. Et donc en fait, ce tombeau, c'est le tombeau qui aujourd'hui, où l'emplacement est vénéré dans le Saint-Sépulcre actuel, dans ce qu'on appelle la rotonde, l'anastasis pour les Grecs, donc la résurrection. Et sachant qu'il n'y a plus que des moignons, quand je dis des moignons, des restes un peu plus grands qu'on l'imaginait il y a encore 10 ans, parce qu'il y a eu des fouilles qui ont été faites récemment, qui montrent que il y en a qui peuvent atteindre quand même un mètre de hauteur, mais tout ça c'est informe. Et si on veut avoir d'ailleurs une idée un peu précise de la forme dont le tombeau qu'avait dans la première église, celle de Constantin. Les détails, parce qu'il y a aussi des stades de construction, celle de Constantin ou celle de Théodose à la fin du IVe siècle, eh bien, on peut aller à Narbonne, dans le musée de Narbonne, archéologique de Narbonne, puisqu'il y a une réplique, il y a une copie de l'édicule, enfin du tombeau de Jésus, qui a priori à cette époque-là du Ve siècle, sachant que tout ça, ça a été détruit, et notamment détruit par le sultan Hakim, je l'ai dit tout à l'heure, en 1009. Aujourd'hui, à cet emplacement-là, il y a ce qu'on appelle un édicule qui est reconstruit. Alors, il y a eu des incendies au Saint-Sépulcre. Et donc, c'est un édicule qui a été reconstruit au XIXe siècle, suite au grand incendie du début du XIXe siècle. On sait ce que c'est qu'un incendie, les dégâts que peuvent provoquer un incendie avec Notre-Dame de Paris. Eh bien, il y avait quelque chose d'analogue donc, au Saint-Sépulcre au début du XIXe siècle. Et donc, aujourd'hui, c'est un édicule avec un style un peu particulier qui est vénéré, qui sert à symboliser le tombeau de Jésus, ou l'emplacement où Jésus donc, a été mis au tombeau et donc où a eu lieu la résurrection.
Alors justement, puisque vous parlez, frère Dominique-Marie, de la résurrection, Nicodème et Joseph d'Arimathie s'occupent d'ensevelir le corps de Jésus, ils l'embaument d'aromates, un mélange de myrrhe et d'aloès, puis ils lient de linge le corps de Jésus. Et puis finalement, que constatent les disciples au matin de Pâques ?
Eh bien alors, le tombeau vide, la fameuse question du tombeau vide. Alors non, oui et non. C'est-à-dire que oui, le tombeau était vide, on comprend
vide
ce que
corps.
Ça signifie. Et où l'as-tu mis ? Mais l'évangile qu'on va lire le jour de Pâques, justement, montre bien que le disciple que Jésus aimait, en fait, il a vu quelque chose dans le tombeau, puisqu'il dit « il vit, il crut ». Donc, qu'est-ce qu'il a vu dans le tombeau ? Il a vu les linges affaissés, comme si...
Comme s'ils étaient pliés, d'ailleurs, non ? C'est pas précisé
comme ça ? Affaissés, au sens où c'est pas très poétique, comme un paquet de la poste qui n'a pas été ouvert, mais qui n'a plus de contenu.
Oui, c'est ça. Ouais.
Donc, ça signifie que... alors, évidemment, on peut défaire le paquet de la poste, prendre ce qu'il y a dedans et le refaire d'une manière minutieuse pour que ça donne l'impression qu'il n'a pas été ouvert. Alors, je ne veux pas dire par là que ça obligeait à croire à la résurrection, parce que la résurrection, c'était quand même, l'hypothèse la plus compliquée à imaginer. Et la foi en la résurrection, c'est une grâce, c'est un cadeau qui vient de Dieu. Donc, rien n'oblige. Ceci dit, moi, je trouve que c'est très délicat de la part de l'évangéliste de nous développer ce moment rationnel où il pensait, avant d'entrer, si le corps n'est plus là, c'est qu'on l'a pris.
Oui, c'est justement c'est l'hypothèse ce qu'ont dit les Romains, que le corps avait été pris.
Que le corps a été pris. Il entre, il voit, et là, avec l'aide de ce qu'il voit, par la grâce de Dieu, il croit.
Il croit.
Et donc là, il témoigne du moment où il y a eu ce switch, excusez-moi du terme anglais, mais de ce basculement où tout d'un coup, ça y est, il a dit, bah, c'est vraiment vrai, Jésus est vraiment ressuscité. Et maintenant, je ne peux plus en douter et je commence à comprendre aussi ce qu'il m'a dit, ce qu'il nous a dit auparavant, qu'il devait mourir et qu'il devait ressusciter, sachant que c'était pour eux, évidemment, quelque chose d'assez invraisemblable, même si la résurrection de Lazare pouvait, avait peut-être...
Était annonciateur aussi.
Annonciatrice oui. de cela.
Est-ce qu'on sait ce qui est devenu, avant évidemment le Constantin et puis Sainte-Hélène, ce qui est devenu le tombeau du Christ après la résurrection?
Alors, après la résurrection, a priori jusqu'en 130... cette zone est restée à l'état pur, enfin, c'est ce qu'on pense aujourd'hui les archéologues, même si on n'en a pas la preuve absolue. Mais pourquoi? Parce que, en fait, c'était une zone de nécropole. Alors, oui. Vous savez, donc, même si ce secteur a été englobé dans la ville, mais c'est un peu compliqué parce que le mur a fini par être détruit, etc. Comment dire, ce secteur n'a pas forcément été construit puisque c'était une zone de nécropole. Et il y avait toujours, même pour les Romains, le respect. Et puis surtout, les familles juives de ces tombeaux, à qui appartenaient ces tombeaux, n'avaient aucune raison de ne plus habiter Jérusalem. Mm-hmm. Bon, sauf ça avait été décimé pendant la guerre de 70, mais a priori, donc ça veut dire qu'en fait, tant qu'il n'y avait pas, il n'y a pas eu l'expulsion des familles juives en 130 au moment de la deuxième révolte juive, eh bien, cet endroit, a priori, n'était pas constructible, ou très peu.
Donc, il est resté.
Et alors, à 130, par contre, a priori, c'est devenu le forum de la colonie romaine fondée par Adrien. Ouais. D'où cette grande place qui donc va ensevelir les lieux saints chrétiens, et notamment avec la construction de ce temple capitolin, que moi j'estime capitolin, sur l'emplacement du Golgotha et du tombeau, la résurrection de Jésus. Voilà. Et donc tout ça, ça va devenir caché jusqu'au moment où Constantin, justement, va accepter qu'on détruise le temple avec l'aide de sa mère, sous la garde de sa mère, surveillance de sa mère, pour retrouver les lieux saints. Sachant qu'on a quand même certaines traces qui montrent que ces lieux ont quand même été vénérés dans l'intervalle. Et il y a notamment dans le fond du Saint-Sépulcre un ex-voto, bien connu, c'est facile de retrouver sa photo sur Internet, d'un bateau avec un mât cassé, avec donc une formule latine, Ivimus, donc qui est a priori une mention d'un psaume, nous irons, nous allons, et qui semble être un ex voto d'un pèlerinage de latins qui sont arrivés à bon port malgré une tempête. Et qui s'est retrouvé, et donc les strates archéologiques montrent qu'a priori, ça a été retrouvé dans un secteur qui était avant Constantin. Donc on a quand même quelques traces d'une vénération chrétienne. Et puis il ne faut pas exclure non plus que les fouilles actuelles, dont on n'a pas la publication actuellement, donc aussi révèlent quelques petites choses aussi qui vont aussi dans ce sens.
Ah, alors vous reviendrez nous en parler et nous donner le résultat de toutes ces fouilles.
Si vous voulez.
Merci beaucoup, frère Dominique Marais-Cabarège. Vous nous avez conduit au prétoire, au Golgotha et au tombeau de Jésus. Et je vous souhaite ainsi qu'aux auditeurs de Radio Présence une bonne semaine sainte et une belle fête de Pâques.
Vous aussi, merci.
Merci, c'était votre émission Vivante Église. Merci de l'avoir suivie.